sistemi, se tutti gli altri portano, che bisogna fare qualcosa di diverso. Se non è da poco, non si fa un tempo, si può fare un secchino, come si fa. Pasteur assistant aussi, il faut le dire, à l'église protestante évangélique de la Défense. Donc, j'ai assisté le pasteur Jean Christophe. On a été avec lui pendant 3 ans. Et quand il est parti, on n'avait plus de pasteur. Je suis resté là, je continue à faire l'assistance. Et aujourd'hui, on est avec le pasteur mon père Clément qui vient juste d'arriver. Et avec qui on évolue. Et bien sûr, je suis africain. D'origine africaine, c'est sûr pour beaucoup de personnes. En fait, je viens de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelait le Zaïre. À l'époque, c'était le premier pays, je dirais, le champ missionnaire de Albert Simpson, le créateur de l'AECM. Il a eu cette question-là de commencer par le Zaïre, le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, et nous sommes les fils de la CEMA. Et voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'ai parlé de certaines personnes qui ont évolué ici. Nos parents ont fait des études ici, et pendant qu'ils faisaient des études ici, on est né ici. Et voilà, la suite, voilà, on continue à servir. Le Seigneur a fait en sorte que nous puissions aussi avoir ce charisme-là, de pouvoir partager, d'être pasteur et de le servir. Voilà. Aujourd'hui, en passant aussi, j'aimerais aussi vous signaler qu'on est en train de fêter 25 ans à l'Ébène, donc à la paroisse protestante de la Défense. Aujourd'hui, nous avons fêté le 5e anniversaire, donc depuis la création de cette église. Et le Seigneur nous a bénis abondamment avec le fondateur, pas le fondateur, mais le premier pasteur qui était parmi ceux qui ont créé l'église à la Défense, qui était parmi nous aujourd'hui. Pour nous préciser, j'ai oublié son nom. Moi, quand j'étais pas là, j'ai oublié le nom. Voilà, je suis accompagné de mon épouse, Valérie Songo, et on est mariés, ça fait maintenant une année qu'on est mariés. Et Dieu continue à nous bénir abondamment dans le ministère que nous avons à faire. Et aujourd'hui, selon le programme, en tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur de pouvoir, parce que je sois ici, parmi vous, ce qui montre aussi la multiculturalité qui continue, parce qu'à la Défense, là-bas, on a plus de, je pense, 15 nationalités différentes dans une seule église. Et c'est le plan du Seigneur qui a voulu que cette église soit comme cela. Et aujourd'hui, je suis dans cette église à Saint-Maur, et je sais que c'est le Seigneur aussi, pardon, qui a voulu que cette église soit comme elle est aujourd'hui. Alors, le Seigneur a fait en sorte que vous a inspiré afin que je puisse venir parler avec vous concernant le passage à la prière de Paul, dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Et ce passage indique bien la prière de Paul dans l'église d'Éphésiens, dans l'église d'Éphèse, c'est comme dans l'église de la Défense, c'est comme dans l'église de Saint-Maur. Et comme le frère le bien-aimé vient de nous dire ici, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille des cieux, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Et ce texte de cette prédication de cet après-midi nous invite à nous interroger sur l'utilité et sur le contenu de la prière chrétienne. La meilleure façon, bien-aimé, pour apprendre comment prier, c'est d'étudier et d'imiter les prières qui se trouvent dans la Bible. C'est le seul chemin que nous avons. Et le passage que nous avons lu, que le frère nous a lu ici, contient la deuxième partie de l'épître aux Éphésiens. La première se trouve au verset 15 et suivant aussi. Et là, au verset 15, l'apôtre Paul, après avoir fait part de sa révélation, il a eu du mystère de l'Église et du mandat qui a été confié par Dieu lui-même d'annoncer l'Évangile auprès des païens. Vient maintenant, dans ce passage, à intercéder en faveur des Éphésiens. Qu'il vous donne, selon sa parti, Paul avait demandé à Dieu d'illuminer d'abord les Éphésiens, si vous vous rappelez, afin qu'ils réalisent toujours davantage quelle était l'espérance qui s'attache à son appel et quelle était la rigoureuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et dans la deuxième partie de cette prière que nous allons voir aujourd'hui, Paul intercède auprès de Dieu afin de les rendre capables, les Éphésiens, de vivre la radicalité de l'Évangile et même d'être fortifiés dans leur homme intérieur pour marcher d'une manière digne de vocation qui leur a été adressée. C'est de fortifier, il leur invite, il intercède auprès de Dieu afin que cette famille, afin que cette église puisse être guérie soit fortifiée dans leur homme intérieur. Et après l'illumination, nous voyons que Paul demande aussi à Dieu d'affermir les Éphésiens dans leur foi et dans leur marche chrétienne, de sorte que leur connaissance des choses de Dieu et du mystère de l'Église ne soit pas vaine et stérile, mais qu'elle puisse porter du fruit en abondance, qu'elle puisse progresser, qu'elle puisse aller de performance en performance. Au premier plan, c'est de fortifier l'ordre intérieur. Au deuxième plan, c'est d'affermir la marche chrétienne dans la foi. Et nous devons savoir que la connaissance sans la pratique ne sert à rien du tout. Il ne suffit pas de connaître la vérité de l'Évangile. Encore faut-il la vivre vraiment réellement. Il faut aussi la pratiquer. Nous avons besoin de la pratique de cette parole. Et il nous faut connaître aussi le vécu ce qui correspond à ce que nous avons. Nous savons déjà de Jésus-Christ. Cela doit croître en nous. Et si le Christ nous a sauvés, justifiés par sa grâce, c'est afin que nous formions la nouvelle société de Dieu, l'humanité nouvelle et créée selon Dieu, l'Église, corps dont le Christ est lui-même le chef et lui-même la tête de l'Église. Souvenez-vous de ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Et c'est ce que nous devons répéter. C'est là était le souci de Paul, de répéter une nouvelle créature, cette nouvelle créature. Telle est donc l'intention de l'apôtre Paul dans cette prière, qui constitue pour nous un modèle et qui nous encourage à placer notre confiance dans la puissance de Dieu. N'oubliez pas que notre thème de ce matin, c'est sur le pouvoir et le pouvoir de Dieu et sa parole. Avoir confiance dans le pouvoir de la parole de Dieu et en Dieu lui-même. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est d'abord au verset 14 et 15. Là, nous avons l'introduction de la prière de Paul. C'est pourquoi, 14, je suis les genoux devant le Père, de qui, verset 15, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ces deux passages que l'aîné constituent ici l'introduction de sa prière. Cette introduction nous montre quelle doit être notre attitude lorsque nous nous adressons à notre Dieu dans la prière. C'est pourquoi Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». C'est une juste attitude que nous devons avoir lorsque nous approchons de Dieu dans la prière. Et nous devons savoir aussi que les Juifs, à l'époque, ils priaient habituellement debout. Et quand il s'agissait de se mettre à genoux, cela signifie que cette prière, cette personne était en détresse, ou bien c'était une grande urgence. C'est pour ça qu'ils se mettaient à genoux. Mais d'abord, ils priaient debout. Et c'est pour dire que cette expression indique la profonde humilité de l'apôtre Paul et son empressement aussi à son ardeur, à son entière consécration dans cette prière fervente en faveur des Éphésiens. Il est vraiment pris à cœur de prier pour eux. Ils veulent qu'ils puissent changer, ils veulent qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu, qu'ils puissent connaître Dieu, qui est-ce qu'il est. Et voilà l'importance de la prière. Ce matin, je ne vous dis pas de pouvoir prier à genoux quand vous êtes dans le train ou bien quand vous êtes je ne sais pas où. Je sais que nous pouvons prier. La Bible dit prier sans cesse. Vous pouvez prier là où vous voulez. Mais quand il s'agit de quelque chose de très urgent, parfois aussi cela demande que nous puissions nous mettre à genoux. C'est la position d'humilité. Vous savez, j'ai toujours raconté cette histoire quand ma mère elle était toute petite. Alors, ils allaient souvent se moquer souvent des catholiques quand ils faisaient leur carême. Petit à petit, ils prient, ils se mettent à genoux, ils prient, ils se mettent à genoux, ils marchent un peu, ils se mettent à genoux. Alors, ma mère, quand elle était toute petite, elle disait ceci, que à force de se mettre à genoux, c'est pour cela que vos genoux ont noirci, parce que vous mettez tout à genoux. Mais la réponse de ces catholiques, les prêtres, tout ça, c'est ceux qui pratiquent l'église catholique, la réponse a beaucoup touché ma mère. La réponse était que nous nous mettons à genoux tout le temps, c'est parce que tout ce que nous avons demandé auprès du Seigneur, nous les avons eu. Malgré que nos genoux ont noirci, mais tout ce que nous avons demandé, nous avons eu cela. C'est à partir de là que ma mère a compris qu'est-ce que c'était la foi. Moi, je ne vous demande pas de noircir vos genoux, mais l'importance de la prière, parfois, Dieu, cela permet aussi d'être, quand nous sommes en situation de détresse, ou bien une situation urgente, nous ne devons pas manquer aussi de nous mettre à genoux pour prier. Notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps même, doivent être à genoux devant Dieu, dans la connaissance de sa seigneurie et dans une attitude d'humilité et d'adoration. Et dans cette qualité de Père que Paul s'adresse à Dieu, il s'adresse à Dieu en tant que Père, notre Père, mon Père, Père bien-aimé. Et en araméen, on dit « Abba Père », c'est le terme araméen que Jésus-Christ a employé souvent, de notre Père, Abba Père. La connaissance de Dieu comme Père est le préalable de toute prière authentique. Commencez par dire Dieu le Père. C'est ce que Paul avait fait. La prière chrétienne est la prière au Père, adressée au Père. C'est la prière de ses fils, c'est la prière de ses enfants, des enfants de Dieu. Et que Dieu soit notre Père signifie le tendre soin du Seigneur. Il prend bien soin de nous et c'est pour cela qu'il est parmi nous. Paul dit ici, ainsi, Paul fléchit le genou devant le Père, et de qui dit-il, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et le mot famille, toute famille, désigne ici la famille de Dieu, toute cette famille de Dieu. Nous sommes l'Église, nous sommes une famille de Dieu. Et il dit aussi la famille dans les cieux, c'est-à-dire le lieu où notre Dieu règne. La paternité divine, cela fonde aussi une famille. Et pour ceux qui le savent, nous sommes la famille de Dieu. Toute cette église terrestre, nous sommes la famille de Dieu. Pour ceux qui vont un peu plus loin dans les études bibliques ou les études théologiques, ils disent la notion du déjà et du pas encore. C'est là où nous voyons la notion du déjà et du pas encore. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes ici, nous constituons le royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous serons comme cela, et lui-même, le Christ sera le chef. Nous serons là à le louer, nous serons là à le magnifier, et lui-même sait ce que nous ferons là-bas. Mais c'est déjà, nous représentons déjà le royaume de Dieu ici sur cette terre. C'est Dieu le Père de cette grande famille qui est l'Église dans le ciel et sur la terre que Paul s'adresse. Il s'adresse à cette grande famille dans les cieux et sur la terre. Il prononce Dieu comme le Père de toute cette grande famille. Et venons maintenant au contenu de cette prière. Dans cette prière, le contenu de cette prière à partir du verset 16 jusqu'à 19. Au verset 16, on nous dit ceci, « Afin qu'il vous donne maintenant le souhait de Paul, je prie le Père, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. » Au verset 17, « En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs plutôt, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Au verset 19, et que connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Le contenu de cette prière, nous pouvons tirer ici quatre mots qui peuvent résumer le contenu de cette prière à partir du 16e jusqu'au 19e verset. Il y a tout d'abord la force, il y a l'amour, il y a la connaissance et il y a la plénitude. La force, l'amour, la connaissance et la plénitude. Paul intercède afin que les lecteurs soient puissamment fortifiés par le Christ, demeurant en eux par son esprit, qu'ils soient ensuite enracinés et fondés dans l'amour, qu'ils puissent connaître l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, afin qu'ils soient remplis de toute plénitude de Dieu. C'est ce qu'il explique dans ce passage. D'abord, au verset 16 et 17, nous voyons le terme « puissamment fortifié », afin qu'il vous donne selon sa richesse et sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur ici, dont on nous parle ici, c'est tout comme le cœur. Cela désigne la partie spirituelle et morale de l'homme, le siège de ses sentiments et de sa volonté aussi, le moi intérieur. Ça, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est aussi ce qui demeure caché aux yeux de tous les hommes, ce que Dieu seul peut voir. C'est ça aussi l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est aussi cette partie qui est en nous, qui constitue le principe directeur de notre vie, qui oriente toute notre existence. C'est ça l'homme intérieur. Et être fortifié dans la Bible dont on nous parle ici, la parole nous dit être fortifié dans l'homme intérieur par l'Esprit Saint, c'est être rendu conforme à Jésus-Christ. C'est être transformé intérieurement par la puissance agissante de l'Esprit de Dieu en nous, afin d'être rendu capable de vivre la vie nouvelle en Christ. Cela veut dire aussi de laisser la place à l'Esprit de Dieu, de laisser la place à Jésus-Christ de diriger notre corps tout entier. Souvenez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne devons pas en faire n'importe quoi. Nous devons laisser nos yeux être guidés par l'Esprit de Dieu. Laisser même notre bouche être guidée par l'Esprit de Dieu. Laisser même nos oreilles être guidées par l'Esprit de Dieu. Nos mains, nos pieds, tout ce que nous faisons, notre conscience, que cela soit guidé par l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions plaire à Dieu et ne pas faire n'importe quoi. C'est ainsi que le Christ agit en nous par son Esprit et qu'il fait de ceux qui croient de nouvelles créatures. Laissez la place à Dieu le Père. Laissez Christ diriger notre vie. La prière de l'apôtre est donc que les chrétiens de Christ soient fortifiés dans leur être intérieur et que le Christ habite vraiment en eux, dans leur cœur, par la foi. Le terme « habiter » au verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Habiter, c'est le terme « s'installer, demeurer ». Donc il s'agit d'une habitation permanente dans le corps du croyant, dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant. Ce n'est pas une habitation résidente temporaire où pendant un moment je suis là et puis après il s'en va. Non, ce n'est pas ça. Mais que le Christ soit pour nous vraiment la personne qui habite en nous. Et ne pas considérer le Christ comme la porte de secours. Donc on n'en a pas besoin. Quand il y aura le feu, on a besoin de cette porte. Mais quand il n'y a pas le feu, on n'en a pas besoin. Non. Nous devons laisser le Christ habiter dans nos cœurs et évoluer aussi avec nous. Le fait de s'installer, la permanence, laisser Dieu rester pleinement dans notre vie. La maturité spirituelle du chrétien dépend précisément aussi de cette habitation du Christ dans nos cœurs. C'est la demeure permanente du Maître et Seigneur dans le cœur du croyant où il est appelé à régner. Le Christ doit régner dans notre vie. C'est pour cela que Paul prie donc afin que les Éphésiens se laissent possession de leur âme intérieure, de leur cœur, pour les diriger et les fortifier par la puissance de son esprit. Le deuxième point, la deuxième, dans le contenu de prière, nous voyons au verset 17, enraciné et fondé dans l'amour. Paul prie pour que les Éphésiens soient, l'église d'Éphèse, soient enracinés et fondés dans l'amour. Verset 17b. La vie chrétienne authentique consiste à être enraciné et fondé dans l'amour. Que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est ce qui englobe toute notre vie chrétienne. L'amour est le sol dans lequel la vie chrétienne doit s'enraciner, le fondement sur lequel elle doit être faite, qu'elle doit être bâtie. L'amour est la vertu fondamentale du chrétien. Et le chrétien, ici, se définit par l'amour qu'il porte envers Dieu. Il se définit aussi par l'amour qu'il apporte envers son prochain. L'amour envers Dieu et envers la personne qui est à côté de nous. Et parfois même pas au-delà, l'amour envers nous-mêmes. C'est là ce à quoi nous sommes appelés chacun à aimer notre prochain. En tant qu'Église, à aimer l'Église. En tant que chrétien, à aimer celui qui est à côté de nous. Et non pas laisser la place à l'égoïsme ou encore laisser la place à l'indifférence. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Ainsi, Paul intercède auprès de Dieu pour que les chrétiens d'Éphèse soient rendus plus forts pour aimer, qu'ils puissent encore être plus forts à aimer. La puissance agissante de l'Esprit Saint et l'habitation du Christ dans le cœur des croyants sont nécessaires pour nous rendre capables d'aimer. Et pour comprendre l'amour du Christ dans toutes ses dimensions, cette habitation permanente, c'est ce qui nous aidera à connaître l'amour de celui qui est à côté de nous et l'amour du Christ envers nous. Connaître l'amour du Christ maintenant, en ce moment, c'est cette partie, à partir du verset 18 et 19. Cette prière, Paul passe à présent de notre amour maintenant, vers l'amour du Christ, vers l'amour de Dieu. Paul reconnaît maintenant, ainsi que nous avons besoin, Paul reconnaît aussi que nous avons besoin de cette force d'aimer. Nous avons besoin de la capacité pour comprendre l'amour du Christ. Il sait tout cela. Nous avons besoin de la force pour aimer. Cet amour doit venir d'en haut. Nous avons besoin de la force pour aimer nos cousins, pour aimer nos amis, aimer tous ceux qui nous entourent, aimer nos parents, aimer nos frères, aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Tout cela vient d'en haut. Et Paul sait aussi que nous avons besoin de la capacité pour comprendre l'amour de Christ qui échappe à notre pleine compréhension. Comprendre l'amour de Christ. Paul désire que nous soyons capables de comprendre l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. La largeur, la hauteur et même la profondeur. Quelqu'un a dit aussi à l'égard de l'amour de Christ, cet amour est assez large pour embrasser toute l'humanité, en particulier les Juifs et même les païens, assez long pour durer éternellement, assez profond pour atteindre le pire des pécheurs et assez haut pour l'élever jusqu'au ciel, cette dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme le soleil qui rayonne partout dans ce monde. L'amour de Dieu, c'est comme le fleur du champ qui reçoit les rayons du soleil. Et l'amour de Dieu est partout dans ce monde. Et quiconque le comprend, le reçoit gratuitement. L'amour de Dieu est permanent parmi nous. Comment ne pas aussi songer à ce passage qui dit ceci, de Romains chapitre 8, verset 17 à 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni substance ni des êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Vous voyez même ce phénomène, nous étions perdus et Dieu nous a promis qu'il nous enverrait un fils unique. C'est toujours Dieu qui vient vers nous. C'est toujours lui qui fait le premier pas vers nous. Nous continuons toujours avec le contenu de cette prière. Paul intercède afin qu'il soit rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. Au verset 19, telle était donc la requête de Paul envers les Éphésiens. La force, l'amour, la connaissance et maintenant enfin la plénitude. Le mot plénitude est le mot qui caractérise la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans cette épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens, Paul aussi déclare que la plénitude de Dieu habite en Christ et que les chrétiens lui-même atteint sa plénitude en Christ. C'est-à-dire, cela veut dire que nous avons besoin d'aller de performance en performance, d'être parfait, d'augmenter toujours notre perfection dans cette relation, dans cet amour de Christ. Et dans sa prière, Paul demande à Dieu que les chrétiens d'Éphèse soient remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a aussi des degrés dans la vie spirituelle. Il peut avoir des degrés dans la vie spirituelle et que notre connaissance n'est pas encore arrivée peut-être à terme et que nous avons besoin au fur et à mesure de connaître Dieu tous les jours. Et dans tout cela, nous ne devons pas progresser. Nous devons toujours aller dans l'avance. Matthieu chapitre 5, verset 28, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, il nous cherche, il veut que nous soyons toujours des êtres qui sont parfaits, même si on dit que nul n'est parfait. Mais nous cherchons cela. Nous cherchons à être parfaits comme le Christ. Nous avons comme modèle Jésus-Christ. C'est encore là la prière de Paul pour les Éphésiens, et elle devrait être aussi, doit être notre prière aussi, parmi les frères, parmi les sœurs, pour nous-mêmes aussi, et pour l'Église, de chercher la perfection en Jésus-Christ. Et nous ne devons jamais cesser d'intercéder. L'intercession doit être permanente, les uns pour les autres, afin que Dieu accorde à chacun et à l'Église, dans son ensemble, la force, l'amour, la connaissance et la plénitude. C'est à cette condition-là que nous pourrons aller de l'avant et vivre pleinement la vocation que le Seigneur nous offre, que le Seigneur nous adresse aussi. Aller de performance en performance dans la relation avec Dieu. En conclusion de sa prière au verset 20 et 21, dit ceci: fort à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Nous devons savoir dans tout cela que dans l'introduction de la prière, de sa prière, Paul s'adresse à Dieu comme Père. Et dans la conclusion ici, il invoque sa toute puissance. Dieu auquel s'adresse notre prière est un Père tout puissant. Dieu est notre Père et c'est pourquoi nous pouvons nous confier vraiment en lui et croire et ce sera notre prière. Le Dieu, le Père, le Dieu tout puissant. Vous savez que, bon, lorsque nous approfondissons parfois les études, nous lisons les dictionnaires, on découvre que parfois le diable aussi est puissant. Le diable aussi est puissant parce qu'il se transforme en ange de lumière. Voilà, il fait plusieurs choses. Mais la différence qu'il y a entre Dieu et Satan, c'est que Dieu est tout puissant. Mais Satan, lui, est dans sa puissance. Donc le terme tout puissant signifie au-dessus de la puissance. Donc, il est au-delà. Pourquoi cette personne-là nous exaucera-t-il pas nos prières? Et quelle est cette prière de Dieu? Ce Dieu-là tout-puissant ne peut pas exaucer. Quel est ce péché que ce Dieu Tout-Puissant-là ne peut pas pardonner, puisqu'il a de le pouvoir de pardonner? Dieu est aussi le Tout-Puissant. Il est le Père Tout-Puissant, celui qui agit puissamment en nous par son Esprit. Et c'est pourquoi nous pouvons nous confier en son pouvoir et croire qu'il a la capacité d'exaucer nos prières. Ce Dieu qui est Tout-Puissant a la capacité d'exaucer nos prières, car il agit au-delà de nos pensées. Cette capacité divine d'exaucer notre prière, Paul le souligne et se sert d'être superlatif en disant au-delà, en grec c'est hyperé, périssou, ce qui signifie infiniment au-delà ou bien infiniment plus. Donc en disant l'être suprême, au verset 20, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Bon, moi je sais que dans ma prière, souvent je demande à Dieu, mais nous avons affaire à un Dieu qui peut faire au-delà de ce que je demande. Si, par exemple, maintenant, je veux demander que, Seigneur, nous avons besoin d'un enfant, voilà, puisque nous n'en avons pas encore, c'est un projet, mais il fait au-delà de ce que nous demandons. Je ne sais pas, ce niveau-là, je ne peux pas me placer à la place de Dieu pour répondre. À la place de Dieu pour répondre à cela, il fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons d'abord, et aussi au-delà de ce que nous pensons. Je ne sais pas quelle est ma pensée maintenant. Je vais imaginer une pensée, et Dieu va faire au-delà de cette pensée-là que moi j'imagine. Ça, c'est l'être suprême. Voilà ce que Dieu peut faire devant nous, dans notre vie. Il peut faire au-delà de ce que tu penses maintenant. Il peut faire au-delà de ce que tu demandes maintenant. Il peut agir au-delà de tout ce que tu peux penser, tout ce que nous pouvons penser. Au-delà de ce que l'Église demande. Vous savez, à un certain moment à l'Église, à la Défense, nous avons été un peu menacés par le projet d'héritage. Voilà. On est en train de détruire pour construire. À un certain moment, on est venu nous dire non, maintenant, voilà, allez vous en parce que la place ici, on va construire des bureaux, tout ça. Voilà, on vous donne l'argent, allez vous en. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a prié au Seigneur, on s'est dit non, ça c'est pas normal. Comment ça se fait que si c'est notre place, par exemple ici, on vous dit, voilà, gardez-vous ici parce qu'on va construire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié. Et on continue à prier. Parce que nous savons que Dieu peut faire au-delà de nos pensées, des pensées que nous avons. Ces gens-là qui nous menaçaient, aujourd'hui, ils reviennent vers nous pour négocier. Voilà déjà des changements. C'est bon. Et Dieu seul, l'être suprême qui est en train de faire ces choses, qu'il est en train de planifier. Donc, nous avons laissé la place à Dieu d'agir, mais nous sommes là en train de prier. Et s'il fait autant dans nos églises, pourquoi ne pas le faire chez nous? L'Église a ses réalités, l'Église a ses difficultés, mais Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Ce que nous cherchons et ce que nous pensons. Ainsi, Dieu peut faire tout ce que nous demandons ou pensons, car il sait tout et il peut tout. Il n'est pas un Dieu illimité. Mieux, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, car le pouvoir de Dieu ne connaît pas de limite. Il n'a pas de limite. Le psaume nous dit que avant même que je sois, David disait que tu m'as formé dans le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as formé. Il n'a pas de limite et il est éternel. Et parce qu'il nous dispense aussi généreusement sa grâce bien au-delà de nos espérances, il peut tout faire dans notre vie. Il peut tout faire dans notre Église. Il peut tout faire dans nos activités. Comment donc ne pas rendre gloire à ces dieux? C'est pour cela que Paul ici termine en rendant gloire à Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il rend gloire à Dieu parce qu'il fait au-delà de nos pensées. En conclusion, je dirais donc ceci, que la prière est l'expression de notre dépendance absolue à l'égard de notre Dieu. Dieu le Père Tout-Puissant, par elle, nous exprimons notre dépendance. dépendance envers ce pouvoir de la parole de Dieu, ce pouvoir de Dieu. Nous devons avoir confiance en cette parole de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu lui-même. Et c'est cette personne qui n'a pas de limite. La prière de Paul pour l'Église d'Éphèse constitue pour nous à la fois un exemple et un modèle aussi. Et nous devons savoir donc être de bons militants, de bons imitateurs de Paul, être de bons imitateurs de Paul et prier les uns pour les autres, afin que notre Dieu le Père nous fortifie dans son amour. Et que le Christ habite vraiment dans nos cœurs et qu'il règne en maître dans notre vie et dans notre monde, dans notre Église, dans notre activité, dans tout ce que nous faisons, que le Seigneur puisse y régner. Remettons-nous donc entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui est souverain, et osons voir même que Dieu répondra à nos prières et il accomplira des grandes choses en nous et dans notre vie et même dans notre communauté. Amen. Que Dieu puisse, que la gloire soit rendue à Dieu seul parce qu'il est infiniment de Dieu faire au-delà de nos pensées. Nous allons prier, nous allons couper nos têtes et prier.